Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Crème de la Crème. Vous êtes sur Canal B, restez-y, pendant une heure vous entendrez quelques nouveautés, un peu de vieillerie, quelques noms échappés de la programmation des Transmusicales 2023. C'était dévoilé aujourd'hui à l'Opéra de Rennes par Mathieu Gervais et Jean-Louis Brossard. On parlera, nous, de Joe York et de Raïl, qu'on connaît déjà, évidemment, sur Canal B et dans Crème de la Crème. On reviendra avec Ronan sur quelques spectacles, Bond Run, Bestiaire et Du mensonge thérapeutique, qui étaient proposés au Festival Bonus 2023, il y a quelques semaines à Edébazouge. Et puis, pour la session info-concert, vous irez peut-être voir Cryptobonic au One's Pub. Eh oui, je remets une petite info là-dessus. Ça a dû être évoqué dans l'émission Purple Rain mercredi soir, mais bon, je vous en reparlerai de ce concert au One's Pub vendredi soir. Et puis, on évoquera aussi Atom, Rosalie et Célélé à l'Antipode pour la release party du duo Atom. On commence Crème de la Crème directement, comme quelques-unes des émissions de cette semaine, avec notre disque d'or de la semaine, le quatrième pour les Néerlandais Loosberg. Il s'appelle Out and About. Si j'ai évoqué à quelques reprises les traces et le fantôme du Velvet Underground encore possiblement audible dans leur musique, et eh bien là c'est sûr, on en retrouve aussi quelques évocations du troisième album, par exemple celui où on retrouvait le fantastique morceau Pale Blue Eyes pour le groupe de John Cale, Lou Reed, Sterling Morrison, Motoker et les autres. Debbie, c'est le morceau qu'on écoute aujourd'hui, extrait donc de ce fantastique disque. Bonne émission.
Out of this room, into 2006.
Étiez à l'UBU lors d'une Halloween party proposée par Banana Juice en octobre 2001. Vous les avez entendus, les extraordinaires Dead Brothers qu'on écoutait à l'instant. Là, c'était la reprise, bien sûr, du morceau Trust in Me, la chanson du Python, telle que susurrée par le serpent K dans le livre de la jungle, version Walt Disney 1967. Elle a été de nombreuses fois reprise, cette chanson, mais peut-être jamais aussi bien que par cette fanfare macabre genevoise, qui a dû malheureusement perdre un de ses membres pour de vrai en 2021. Ironie ultime pour celui qui s'en est allé, Alain Croubalian, qui est mort juste après l'enregistrement d'un nouvel album, d'un dernier album, peut-être le disque Death is Forever. Ça sort sortira le 13 octobre prochain pour les Dead Brothers. Si Nick Cave nous disait que la mort n'était pas la fin, eux sont tout à fait réalistes, les Dead Brothers. Ils nous disent que ça dure pour toujours. Est-ce que ça veut dire que c'est fini fini? Bah ça, vous verrez bien. On retrouve sur cet album une reprise du morceau Wayfaring Stranger et puis quelques morceaux originaux qui les rapprochent, je trouve, de temps en temps de Tom Waits, hein, les Suisses des Dead Brothers. Vous en aurez la preuve. C'était un titre de 2006 grâce à la machine à remonter le son il y a quelques secondes. Là, on revient dans le présent avec un extrait de ce nouvel album Death is Forever. Je vous rappelle, il sortira sur le label de Beatman Voodoo Rhythm le 13 octobre prochain et on en écoute l'extrait Whalebone.
Yeah.
Les transmusicales cette année se dérouleront à Rennes du 6 au 10 décembre. Vous avez déjà pu découvrir une affiche un peu psychédélique et western en même temps, comme si Alejandro Jodorowsky, eh bien, ça coquinait avec Quentin Tarantino pour faire un western complètement drogué. C'est pour les 45e rencontres transmusicales qu'elle a été faite cette affiche-là. La programmation en était dévoilée ce jeudi matin à l'Opéra de Rennes par Mathieu Gervais et Jean-Louis Brossard. On aura le temps, bien sûr, de la décortiquer, cette programmation-là, qui me semble faire la part belle aux musiques d'un peu partout dans le monde et qui proposera quand même quelques artistes que vous avez déjà entendus sur Canal B, qui ne seront pas complètement des découvertes, mais je pense que ça vous fera plaisir de les découvrir en live, comme par exemple celui qu'on écoutait à l'instant, Joey York, une voix d'or au service du reggae, du rocksteady. On l'a entendu avec les Stenhigh Patrol, les Bretons de Stenhigh Patrol, mais il a aussi quelques disques à son actif. Le dernier album, c'est Hopeless, hein, qui sort ce 27 octobre sur le label Rhythm Steady, mais il avait aussi pu sortir des choses plus récemment dans l'année avec notamment les Co-Operators, et c'était justement ce titre Skin Crawl qu'on écoutait à l'instant. Joey York sera au Parc Expo le jeudi 7 décembre pour mélanger avec sa voix tout en falsetto et bien ses influences, hein, entre rocksteady, soul, reggae. Ça risque d'être bien classe et ce sera pour une création. Celle qu'on va écouter dans un instant, vous l'avez découverte grâce à son groupe garage un peu persan, les excellentes Habibi. C'est Raïl Djamalifard et qui nous propose désormais, eh bien, cette compositrice irano-américaine, des ambiances un petit peu plus mélangées. Ça n'est plus seulement garage folk mêlé de quelques mélodies iraniennes. Non, on va plutôt vers des musiques électroniques. C'est assez langoureux, comme vous allez pouvoir l'entendre dans un instant. Je crois avoir reconnu un sample d'un morceau de Lou Reed dans le titre qui va suivre. Vous aurez, j'espère, autant de plaisir que moi à rencontrer Raïl en live sur la scène du Parc Expo le vendredi 8 décembre. Retrouvez bien sûr toute la prog sur lestrans.com. On continuera à se balader dans des choses un peu moins connues au cours des semaines qui nous séparent de ce week-end du 6 au 10 décembre. On écoute Raïl avec ce morceau « I Smile For E ». C'est un morceau original. Elle a sorti un très bon EP de reprises avec notamment l'excellent « Out of My Head » de Shuggy Otis. Elle a sorti un titre avec Beck, mais là on la retrouve seule avec ce titre « I Smile For E ». Juste après, la page culture de Crème de la Crème. Ronan revient sur quelques spectacles vus au festival Bonus 2023.
Leave me empty hearted, and the sun keeps shining. She speaks. She says the days continue, and all the farewell misuse will be her kiss on my cheek. I wonder if she is happy. I wonder if she can feel my warmth. It's never too easy to swallow. I try to keep my head above the clouds. House feels empty since you've gone. April
lost and hurting. I feel the pages turning, the rock that kept them going for so long.
L'émission Crème de la Crème, vous le savez, si vous écoutiez la dernière émission où on a parlé théâtre, eh bien je ne suis pas tout seul évidemment à vous la proposer cette émission. J'ai quelques chroniqueurs, chroniqueuses de grand talent, notamment Ronan. Bonjour Ronan.
Bonjour et merci.
Je t'en prie. Qui vous parlera lui aussi, comme Isabelle, de théâtre et pour cette première chronique de ta part cette saison, du même sujet, mais pas des mêmes spectacles. Vous êtes allés voir tous les deux le festival Bonus à Aide-et-Bazouge à la fin du mois d'août. Et toi, tu vas nous donner tes retours sur l'ambiance générale et puis sur deux spectacles qui t'ont particulièrement plu.
Trois spectacles. En l'occurrence. Alors c'est la rentrée, mais un petit air de vacances, puisque effectivement, on va évoquer Bonus. Donc avec cette 9e édition, Bonus tire sa révérence et conclut en beauté l'aventure du joli collectif avec le théâtre de poche. Pas de larmes cependant, si ce n'est celle d'une météo à rien capricieuse. Juste le plaisir de retrouver une dernière fois ce festival mitonné maison. On s'y sent toujours un peu comme chez soi. La programmation du joli collectif, pointue et affûtée, révèle assurément un goût pour la découverte, la volonté de nous faire partager le théâtre dans son versant exploratoire. Certes, mais avec Bonus en particulier, c'est aussi le désir d'offrir un temps fort, le plus inclusif possible, un temps vraiment tout public. On a donc ouvert cette ultime édition à l'écluse de la Parfraire sur le canal d'Illérance. C'était le point de départ d'une longue promenade, que dis-je, d'un long voyage de 5 heures que nous proposait le collectif Tranks, emmené par le metteur en scène Loïc Lemanac. Nous sommes donc partis vers nous ne savions où. Sitôt, nous fûmes interpellés par deux individus patibulaires. Alors note que j'utilise le passé simple, ça donne un petit tour épique à cette chronique. Donc deux individus patibulaires, comme surgis de cette campagne profonde, ils ont fondu sur nous agressant presque, donnant ainsi à notre périple une atmosphère pour le moins inquiétante. Nous avions embarqué dans un survival à la délivrance. Discrètement, j'ai pu les enregistrer.
C'est toi qui as fait ça ? Oh ! Eh, on rigole pas avec moi, hein ! Qui c'est qui a fait ça ? Personne ? Putain. Eh, vous savez qui on est ? Hein ? On est la famille Bandren ! On est la famille Bandren ! Et ceux là qui veulent du mal à la famille Bandren ? Eh ben, ils auront affaire à moi. Ouais, moi aussi je me protège. Où est mes frères? Ok? Moi, Jewel Bundren. J'ai les yeux partout, ok? Pourquoi vous êtes là? Vous êtes venu voir mourir la mère, c'est ça? Ah bah désolé, elle est pas encore morte! Et c'est pas demain la veille qu'elle mourra! et ni la semaine prochaine, et ni le mois prochain, et ni dans un an.
Habile prologue pour poser les bases de cette épopée, Burn Drain, adaptation aussi osée que réussie de Tandis que j'agonise de William Faulkner. Par cette interpellation directe du public, renouvelée tout au long du parcours, on nous plonge ainsi au cœur de la fiction, nous en rendant les témoins directs, voire même les protagonistes. Nous assisterons à l'agonie d'Addy Bundren, puis à l'absurde périple épique de sa dépouille vers sa ville natale de Jefferson, à 100 km de là. Nous suivrons les péripéties tragicomiques de cette famille au complet, le long, je cite, des 11 écluses du Mississippi. C'est que, mais j'y reviendrai, cette adaptation mêle et emmêle avec brio l'univers de la fiction, le Southern Gothic, à l'environnement bien réel de la Bretagne romantique. Alors un mot tout de même pour vous présenter la famille Bundren et l'œuvre qui l'abrite, Tandis que j'agonise de William Faulkner. C'est un roman fiévreux, écrit, dit la légende, de nuit, au fond d'une soute à charbon en 6 semaines, alors en fait 10. Chacun de ces chapitres adopte le point de vue d'un personnage. Des personnages qui travaillent chacun avec acharnement à resserrer les liens de leur alignation propre, de leur servitude, de leur misère de classe. En somme, des champions de la loose, et le tout avec l'aide de Dieu qu'on invoque avec autant de frénésie que de fanatisme. La famille Bundren, c'est Addy, la mère, qui agonise, attendant pour mourir cependant que son fils aîné cache et fini d'assembler son cercueil. C'est Hans, le patriarche, très doué à ne pas faire grand-chose et qui cependant imposera à sa progéniture, quatre garçons et une fille, de réaliser la promesse qu'il a faite à sa femme, l'impossible et absurde voyage, convoyer le cercueil jusqu'à Jefferson aidé. C'est donc au départ un roman exigeant, pas facile et pourtant à recommander. Loïc Le Manac s'attaque à cette œuvre monumentale en choisissant le format du théâtre-paysage, pourrait-on dire. Ici, c'est la réalité de l'environnement, du paysage qui va revêtir ou habiller l'univers de la fiction. Nous avons ainsi cheminé, découvrant d'abord la cabane des Bundren au fond d'un champ, puis accompagné la famille dans son épopée au long du canal d'Illérance, le Mississippi des 11 écluses, dans sa traversée même sommet burlesque, où bien évidemment la moitié des protagonistes, sans compter le cercueil, tombent à l'eau. Et puis enfin, nous sommes arrivés au cœur de Jefferson, alias Aidé. Tableau final qui prend donc place au cœur même du site de bonus. Pour le coup, les musiciens qui ont accompagné notre déambulation ont gagné la scène du festival, ce sont les Lousticos, et entament un vrai concert. Il était désormais impossible de démêler la fiction qui jouait son final et la réalité qui l'entourait. Les comédiens intervenaient au cœur du public qui n'était plus uniquement celui du spectacle. On a certes été très impressionné par le soin apporté au choix des paysages. Ils sont magnifiquement transfigurés quand ils sont habités par cette fiction. On devine un travail de repérage très soigneux pour trouver des espaces qui puissent répondre aux contraintes de circulation, imposées par l'histoire. Repérage qui a commencé, j'ai cru comprendre, dès le mois de décembre 2022. À la différence d'une cage de scène, le paysage excède notre champ de vision et très souvent les personnages font irruption, surgissent d'un coin du paysage, le reconfigurant ainsi sans cesse. Ce dispositif crée de véritables tableaux. Je retiendrai en particulier celui qu'on pourrait nommer le monologue des voix, le cercueil abandonné sur une toute petite route, la silhouette d'une ferme au fond et la magnifique acoustique naturelle du lieu. Le temps se suspend presque entre chien et loup, le couvercle du cercueil se soulève de l'intérieur. C'est le tour de la défunte, Addy Bundren, de prendre la parole et de lever quelques secrets. Entre deux tableaux, le public cheminant tombe aussi, comme par surprise, sur toute ou partie de cette famille, improvisant un plâtre avec du ciment pour la jambe cassée de Cash ou priant au pied d'un autel improvisé. Autant de petites surprises qui surgissent sur le chemin, car c'est là une grande qualité de ce spectacle qui, durant 5 heures, ne nous lâche pas. On sent une volonté manifeste de maintenir un rythme, de prévenir la fatigue ou l'ennui qui pourrait arriver. On aurait pu appréhender une telle durée pour adapter un texte dense et parfois peu amène. Mais il est clair que Bundren a été pensé dans la culture de ce qu'on nomme désormais les arts de la rue. Il y a un entracte au cours duquel on peut se restaurer, c'est donc un spectacle qui prend soin de ses spectateurs. Il y a les musiciens aussi, ils sont 3 pour accompagner le périple, pour accompagner tout court les comédiens qui parfois se mettent aussi à chanter. Et la bande-son du spectacle n'est pas sans rappeler celle de Oh Brother des frères Cohen. On est clairement dans le sud des États-Unis, entre blues, folk et gospel. C'est ainsi une performance conviviale dans laquelle le public est constamment sollicité pour participer.
Amen. Je te vois entrer dans le ciel, Addy.
Amen.
Je te vois entrer et frapper aux portes du paradis, Addy.
Amen.
Je te vois entrer dans le paradis, Addy.
Amen.
C'est un cabaret à ciel ouvert. Et de fait, j'ai été surpris de la tonalité burlesque qui est donnée à cette épopée. Je n'avais jamais, je crois, saisi la dimension farcesque du texte. J'ai ainsi pu lire au sujet de Tandis que j'agonise, c'est une farce très haute en couleur à la flamande. Mais une farce tragique, car ces petits plans du sud, pauvres à n'en plus pouvoir, continuent avec acharnement à creuser le sillon de leur propre misère économique, morale et spirituelle. Bundren commence nettement dans cette tonalité burlesque. Si l'on voit Adi agonisé par la fenêtre de la cabane familiale, ses funérailles deviennent très rapidement hilarantes.
Tu es juste allongé sur ta croix pour accepter la miséricorde. Elle sera toujours dans tes entrailles.
La plupart des comédiens ont révélé ainsi un talent multifacette dans les variations de leur jeu, du comique au tragique. De fait, Bundren aurait pu se contenter de nous faire rire, mais il va bien plus loin, laissant de plus en plus le texte de Faulkner s'épanouir dans toutes ses dimensions. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ce fut là une singulière occasion de le découvrir en le vivant presque.
I'm just a poor wayfaring stranger traveling through. Ain't no sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. Said he'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm only going over home.
Vous entendiez à l'instant le titre Wayfaring Stranger, morceau bien connu. C'était la version de 16 Horsepower, morceau qui t'a été inspiré par la vue de Bundren.
Oui.
Un spectacle très généreux,
hein, oui,
si j'ai compris ta chronique précédente. L'émission se poursuit toujours avec un retour sur un spectacle vu au Festival Bonus. Dernière édition.
Oui, c'était Bestiaire de Jeanne Mordoge, je ne sais pas trop comment on prononce, et Hichem Sherif de la compagnie BAL. Ce samedi 26, dans le répit que nous ont laissé deux averses, nous sommes rassemblés autour de ce qui s'apparentait à un ring pour un seul en scène. Une petite forme entre danse et cirque, c'était Bestiaire. Pendant 40 minutes, le danseur acrobate nous invite à découvrir les animalités variées qui sommeillent en lui. Un voyage hypnotique et très troublant, pendant lequel le corps du circassien, son visage aussi, se métamorphose et évoque, plutôt que n'imite, différents animaux. Chacun aura ainsi reconnu un chien, un singe, une mouette. Pour d'autres espèces, c'est moins évident, peut-être un varan, une tortue, un échassier. Le corps de l'artiste se déploie ainsi, passant imperceptiblement d'un état à l'autre, par des gestes, des attitudes, des expressions d'une infinie précision. Et très rapidement, on tombe en fascination devant ce qui surgit. C'est familier et en même temps si étrange. La bête est bien là qui nous regarde, de ce regard d'autre humanité qui nous interpelle avec d'autant plus de force. Car cette performance s'appuie en grande partie sur ce regard qu'Hichem Chérif plante en nous, créant ainsi un contact qui crée un léger malaise. Que nous veut donc ce chien soudainement surgi sur le plateau? Que demande-t-il? Qu'attend-il? Il faut dire qu'il y a là quelque chose de légèrement transgressif dans cet humain qui se contorsionne dans la posture du chien. Et puis, la petite gêne trouve sa résolution dans le rire, quand enfin l'animal révèle son intention, il veut tout simplement jouer à la balle et met à contribution l'un ou l'autre des spectateurs pour qu'il la lui lance. Petit à petit, chacun est gagné par le jeu et s'y enhardit. Puis c'est le singe qui prend le relais, les rires se taisent. Adossé à l'un des piliers du ring, il nous regarde de côté et s'épouille. On pense alors à ces primates que l'on a pu voir de l'autre côté de la vitre d'un zoo. Un léger malaise revient, le ring devient métaphore d'une vie sauvage enfermée, réduite à notre seul bon plaisir de voyeur. Mais l'animal très vite, on ne sait comment ni pourquoi, jette son dévolu sur l'un d'entre nous. Il traverse le ring ou la cage, s'en approche, l'observe avec une fixité gênante, tente un contact physique. Très rapidement, on dirait que le rapport de force s'inverse. Le primate mène désormais la danse qui s'accélère. Les barrières sautent en éclats, le singe saute dans le public, s'installe sur les épaules d'un des spectateurs, caresse les cheveux de sa voisine, vole la sandale d'une petite fille, semble véritablement draguer une autre spectatrice qui ne sait plus trop où se mettre. C'est donc une autre transgression qui se met ici en place. L'espace scénique, et l'on parle parfois de cage de scène, a vu ses limites effacées par l'animal sauvage. La bête touche le spectateur, touche son corps, lui dérobe ses objets personnels. Il n'y a plus la règle rassurante qui sépare public et spectacle. Tout s'entremêle dans une joyeuse pagaille. Cela dit, ce bordel est aussi le fait d'une écriture très précise. Tout est méticuleusement écrit pour donner cette impression de désordre, mais aussi de libération. Et bien sûr, on s'y laisse prendre. Après le spectacle, on adore s'être laissé avoir parce que justement là réside une des virtuosités de la performance. À la toute fin, l'homme semble réapparaître, mais sur le point de nous dire quelque chose, il aurait ainsi retrouvé la faculté du langage, c'est celle de l'équilibre qu'il aura perdu. L'homme chute.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille.
Et pour terminer maintenant ces retours sur la dernière, l'ultime édition du festival Bonus à aider Bazouge, porté par le joli collectif, eh bien tu nous proposes d'évoquer le mensonge thérapeutique. Tu l'évoques pour nous?
Oui, le mensonge thérapeutique par le bien nommé Stéphane Manty. Ça ne s'invente pas. Ça s'est joué le samedi 26 et le dimanche 27 dans la petite cour d'une des petites écoles d'aider. Un espace atypique donc, dont Stéphane Manty s'est habilement emparé pour nous présenter une étape de sa création en cours du mensonge thérapeutique. À l'origine de ce projet, il y a eu un accident de vie. Tout commence avec Camille, la sœur de Stéphane Manty, et c'est aussi presque le début du spectacle.
Camille, c'est une héroïne. Camille, elle a sauvé plein de personnes ici. Il y a 7 mois, Camille, elle a réussi à faire parler Anna, 94 ans, qui ne parlait qu'à elle. Et elle lui a dit ce que lui avait fait subir Olivier. Nous, on n'avait rien vu. Pourtant, il y avait des traces, il y avait des hématomes sur les bras, des griffures sur le cou. Des hématomes partout en bas du ventre. Camille, elle est direct allée voir la direction. La direction, elle a fait la sourde oreille pendant 5 jours.
Camille, aide-soignante, lanceuse d'alerte qui dénonce des violences sexuelles et qui, n'étant pas crue dans cette œuvre de vérité, va sombrer dans la mythomanie. De ce point de départ autobiographique assumé, Stéphane Manty lance une réflexion à rien décalé sur le mensonge. Un rien décalé est pourtant nécessaire dans une époque où la vérité voit souvent ses contours floutés ou réajustés. En réponse à la situation de Camille, le mensonge pourrait donc être thérapeutique, nécessaire quand la réalité devient insupportable à vivre.
C'est l'envie de traiter du mensonge, mais en tout cas pas du mensonge pour nuire ou du mensonge pour escroquer, mais plutôt du mensonge qu'on utilise pour se faire du bien ou pour un peu mettre à distance une réalité qui nous est difficile, ou en tout cas se créer des points de fuite, arrondir les angles, vraiment rendre une réalité vraiment plus vivable, en tout cas plus acceptable pour la personne qui ment. Je suis vraiment parti en tout cas de cette envie-là de traiter le mensonge, on va dire, de façon positive.
Cette interrogation sur le mensonge n'est cependant pas une défense inconditionnelle. Réfléchir sur la possibilité d'un mensonge thérapeutique, c'est avant tout reposer la vérité comme absolument nécessaire. Vérité que l'on doit à chacun, certes, mais encore faut-il que chacun soit en mesure de la supporter. Du mensonge thérapeutique dépasse cependant ce postulat de départ, car l'occasion était trop belle de pousser la logique jusqu'au bout et de cartographier tous ces mensonges, ces petits arrangements avec la réalité qui font du bien, qui nous font du bien. On écoute ainsi le propriétaire qui fait visiter son appartement à louer, où il est question d'un trou dans le mur.
Sur ce mur-là, on pourrait croire qu'il y a une sorte de trou de 3 mètres sur 4 qui mène sur une décharge. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. C'est un système extrêmement évolué de climatisation et de ventilation et de chauffage. Alors tous les objets à l'intérieur qui sont métalliques, comme des canettes vides, tuyères ou des matelas ou des restes de canapé, en fait, ça sert à condenser le froid et à le recracher lors de la saison estivale. Et tout ce que vous voyez qui semble un peu bouger, un peu oublié, c'est des organismes vivants qui, de par leur chaleur naturelle l'hiver, vous permet d'avoir chaud. Voilà, en tout cas, c'est complètement éco-responsable, complètement indépendant, enfin sans dépendance des énergies fossiles, atomiques et nucléaires.
C'est que Stéphane Manty pousse cette logique du mensonge jusqu'au bout, se réinventant en Stéphane Mention, le mensongeux thérapeute. Thérapeute d'un nouveau genre donc, gentiment arnaqueur. Il inventorie et décline les mensonges à l'œuvre dans notre société, en particulier grâce à un usage dévoyé du langage, euphémisé, antifrastique, qui n'est pas sans faire penser à la novlangue de George Orwell. Les exemples vont crescendo sur le mode « plus c'est gros, plus ça passe ». Le mensonge thérapeutique est une forme très simple, sans décor, sans artifice, oserais-je dire. On écoute son auteur nous expliquer ce parti pris.
J'avais vraiment envie de questionner le témoignage. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans la scène vivante, il y a de plus en plus envie de faire des spectacles de témoignage ou de témoigner. Et j'avais envie de partir de cette envie-là, sachant que moi, je savais que mon point de départ, c'est-à-dire le mensonge, était, je trouvais ça très... C'est-à-dire intéressant, là, parce que je suis interviewé, mais je devrais dire très marrant, pour parler du mensonge, de partir de scènes spécifiquement qui émanent une certaine sincérité dans leur dispositif et dont, en plus, la logique de témoignage demande une logique de sincérité. Donc voilà, je suis vraiment parti de ces deux-là. D'où très peu de technique. Vraiment un rapport frontal. On n'est pas là pour jouer. Il n'y a pas de quatrième mur. Non, c'est vraiment vraiment le rapport direct quoi.
Il faut bien dire que dans cette authenticité du théâtre témoignage, Stéphane Manty évolue sur une ligne de crête. Stéphane est l'unique voix de cette performance. Le public n'a donc que le choix de lui faire confiance et de le suivre. On s'y perd un peu car la parole passe très vite du récit, du témoignage, où le jeu se pose tout de suite comme autobiographique, garant donc d'une certaine vérité, au délire mythomaniaque ou au mensonge manipulateur. Ce sont des couches de récits de différentes natures qui se superposeraient partiellement, sans que l'on ait la possibilité de les distinguer les unes les autres. Et ça pourrait presque faire penser à certains récits expressionnistes où la réalité se confond souvent avec le délire du narrateur. Du mensonge thérapeutique est une performance qui nous a d'abord laissé perplexes, mais petit à petit on s'est senti gagné, notamment par cette écriture un rien caustique qui nous propose un regard décalé sur l'usage du mensonge. Du mensonge thérapeutique est assurément en chantier, bonus et qu'il en soit remercié, nous a permis d'assister en tout cas à une très belle étape de sa création.
Merci Ronan pour ce retour donc sur ce festival. Je vous disais, c'était le tout dernier, tu le disais aussi, bien sûr, bonus porté par le Joli Collectif, mais rassurez-vous, le Joli Collectif ne va pas partir s'occuper d'autres affaires que d'affaires théâtrales, puisqu'il est désormais en plein pouvoir de l'air libre à Saint-Jacques, et donc il est bien probable que quelques prochaines chroniques seront consacrées à leur travail là-bas. Merci beaucoup Ronan, et à bientôt pour une nouvelle émission Crème de la Crème. Pour y parler théâtre. Et si je vous disais à l'instant que nous retrouverions certainement le Joli Collectif sur l'antenne de Canal B, eh bien, ce sera pas plus tard que ce vendredi 22 septembre, puisque une carte blanche est confiée à quelques membres du Joli Collectif à l'air libre. Et nous retrouverons Enora Boel ainsi que Camille Planex et puis Rachel Dufief pour nous parler notamment du week-end Vivante les 29 et 30 septembre. Mais on poursuit avec la session info-concert de Crème de la Crème. Si vous n'écoutiez pas Purple Rain mercredi soir, vous n'avez pas entendu les Cryptomoniques en live. Et si vous avez envie de les découvrir, hein, ces fiers héros du heavy metal et du glam punk, eh bien, ils seront au One's Pub ce vendredi 22 septembre pour un live qui fera la part belle à des solos de guitare qu'ils auront peut-être pioché du côté de leurs écoutes de Judas Priest, Thin Lizzy ou Billy Idol. On les écoute, les Cryptomoniques. Ils sont au One's Pub, donc ce vendredi soir. C'est entrée libre et gratuite. Cryptomonique à l'instant avec un titre extrait de l'album Over Before It's Begun. Ils sont au One's Pub ce vendredi 22 septembre. Si vous êtes plus metal, glam, punk, eh bien vous irez au One's Pub. Si vous êtes plus techno, analogique, eh bien vous irez retrouver Gabriel et Antoine, soit le groupe Atom pour la release party de leur album. C'est à l'Antipode et c'est avec aussi Rosalie et Célélé. On termine Crème de la Crème aujourd'hui avec ce titre Lost Work sur l'album d'Atom et puis on se retrouve vendredi pour donc une carte blanche au joli collectif qui dirige l'air libre désormais. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.